Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h Biotine, l'émission d'actualité scientifique. En général, c'est après Vibrasos. Donc vous écoutez un petit peu de musique et puis après, pendant une heure, pendant l'heure du déjeuner, vous allez vous nourrir d'informations scientifiques. On va aborder un petit peu tous les sujets qui peuvent être liés à la médecine, à la technologie, aux objets connectés, à l'espace, à l'énergie, au développement durable. Vous le savez, vous êtes assez fidèles de cette émission. On parle un petit peu de tous les sujets et aujourd'hui, alors on va revenir sur une actualité qui date déjà de début octobre, mais avec toutes ces émissions, on n'a pas eu le temps d'aborder, bien sûr, les attributions des prix Nobel. Donc tous les ans, on a une émission spéciale prix Nobel pour essayer un petit peu de voir quels ont été les sujets qui ont été récompensés. Puis en plus, cocorico, il y a eu un Français dans le lot, donc on va pouvoir en parler pour cette émission du 5 novembre. Alors c'est la journée mondiale au niveau des Nations Unies de sensibilisation au tsunami. Voilà, c'est bon à savoir. Bon, ok. On ne pense au tsunami que le 5 novembre. Ça, ils ont intérêt à les tsunamis arriver le 5 novembre, sinon ça n'a aucun intérêt si ça vient un autre jour. Au niveau de l'éphémérie, en 2007, c'est l'entrée en orbite lunaire de Chang'e. C'est le premier satellite d'observation lunaire chinois. 2007, on en avait parlé lors des toutes premières émissions de Graphite, c'était en 2008, où on assistait en fait quelque part à l'entrée de la Chine dans cette course, dans cette conquête spatiale. Et donc le premier satellite d'observation de la Lune chinoise, c'était le 5 novembre 2007. Et ensuite, on avait un peu parlé de l'Inde, et là c'était le 5 novembre 2013, l'Inde lance sa propre sonde spatiale qui s'appelle Mangalyaan et c'est en direction de la planète Mars. Donc on avait quand même deux grandes puissances internationales qui s'engageaient dans cette course également à la conquête spatiale. Et comme je vous le dis, bien sûr, cette décennie 2020 va être totalement fantastique et on voit que les prémices datent des années 2005-2006 pour la Chine et un tout petit peu plus tard pour l'Inde. Naissance le 5 novembre 1855 de Léon Tenserec de Bort. C'est un météorologue français. Il va développer l'observation et l'étude de l'atmosphère par l'utilisation de ballons. Il a aussi été le co-découvreur de la stratosphère. Et pour un petit peu rendre hommage à Léon Tesserenc de Bort, on a donné son nom à des cratères sur la Lune et sur Mars. Il est donc né un 5 novembre 1855. Décès un 5 novembre 1879. On reste toujours dans le 19e siècle de James Clerk Maxwell. Ah, Maxwell. Alors non, c'est pas Maxwell qualité filtre, ça n'a aucun rapport. C'est un physicien et un mathématicien écossais. Et en fait, Maxwell, il est principalement connu pour avoir unifié en un seul ensemble d'équations, ce qu'on appelle les équations de Maxwell. Il avait réunifié les thématiques de l'électricité, du magnétisme et de l'induction. Et ça apporte véritablement à l'époque un modèle qui est le plus unifié, le plus important dans le domaine de l'électromagnétisme. Alors, on ne va pas rentrer dans ce domaine-là aujourd'hui parce que ce n'est pas nécessairement facile à expliquer. Mais en tout cas, il a été également célèbre pour avoir interprété dans un article scientifique la lumière. Comme, disait-il, la lumière, c'est un phénomène, là encore, électromagnétique. Et il va s'appuyer sur les travaux d'un ancien scientifique qui s'appelait Michael Faraday. Faraday, oui, ça nous dit vaguement quelque chose, effectivement. Et Maxwell, il a également démontré que les champs électriques et magnétiques se propagent dans l'espace sous la forme d'une onde et à la vitesse de la lumière. C'est au début au 19e siècle, je vais y arriver, qu'il évoque ça. C'est totalement révolutionnaire à l'époque. Ces deux découvertes vont permettre d'importants travaux par la suite, notamment en relativité restreinte et en mécanique quantique. Maxwell, il est considéré par de nombreux physiciens comme le scientifique du 19e siècle qui a eu le plus d'influence par la suite au 20e siècle. Ses contributions à la science, elles sont considérées par certains comme aussi importantes que celles de Newton et que celles d'Einstein. En 1931, pour le centenaire de sa naissance, Einstein va décrire les travaux de Maxwell comme étant, je cite, les plus profonds, les plus fructueux que la physique ait connus depuis le temps de Newton. C'est-à-dire que c'était quand même ce James Clerk Maxwell, un personnage vraiment important. Il est également connu pour avoir réalisé le 17 mai 1861 la première photographie en 1861, une première photographie en vraie couleur, et il fait cette démonstration devant les membres de la Royal Institution de Londres. Donc c'était vraiment un personnage important. Alors autant Faraday, autant Newton, autant Einstein sont des noms qui, pour le grand public, sont des noms de scientifiques qu'on connaît un peu. Autant Maxwell, pas nécessairement. Alors, les scientifiques connaissent bien sûr les équations de Maxwell, mais voilà, c'est pas un personnage qui finalement, même s'il a eu une importance capitale dans ces différents domaines scientifiques et notamment au niveau de l'électromagnétisme, son nom n'est pas nécessairement porté par la suite et c'est un petit peu dommage. Et c'est à l'occasion de cette éphéméride que ça nous permet justement de lui rendre hommage à ce Maxwell qui est donc décédé le 5 novembre 1879 à Cambridge en Angleterre, bien sûr. Au niveau de l'actualité, pas mal de choses. Alors, j'ai récupéré des petites brèves dans Science et Avenir et c'est assez intéressant parce que on est toujours sur les mêmes sujets, sur les mêmes thématiques, notamment au niveau de l'énergie. Et on voit que dans ce domaine-là, il y a vraiment des choses qui commencent à se propager et on a très bien compris que c'est un défi technologique qu'il va falloir relever de plus en plus. Il y a des Américains qui annoncent une véritable percée technologique pour la confection de ce qu'on appelle les cellules photovoltaïques. C'est en clair des panneaux solaires. Et ils sont à la fois plus efficaces et plus stables dans le temps, parce que c'est une vraie difficulté actuellement. Ils ont ajouté en fait une nouvelle molécule et ils ont également essayé de travailler sur l'architecture générale, si bien que ces panneaux solaires qu'ils ont construits, ces Américains, sont plus stables, plus efficaces. Et là encore, c'est une véritable avancée pour l'utilisation de ce qu'on va appeler les énergies renouvelables, bien évidemment. Et du coup, on sait qu'on avait au niveau des panneaux solaires là encore des difficultés de maintenance, des difficultés de durabilité, de performance, et qu'il y avait quand même pas mal de travaux qui étaient lancés un petit peu partout dans les laboratoires du monde entier. Là, il y a des Américains qui annoncent une percée vraiment importante dans la confection de ces panneaux solaires. Autre chose, il y a la NASA qui a sélectionné sur la Lune 13 sites différents où les astronautes du programme Artemis pourraient atterrir en 2025 ou 2026. Alors ces sites lunaires, ils ont chacun à peu près un espace de 15 km de côté. C'est quand même assez large, hein. Ça correspond à des plateaux, à des pics, à des bordures de cratères. Donc ils ont défini ça. Et ça se situe en général pas loin du pôle sud de la Lune. Ce sont des régions qui sont pour l'instant totalement inexplorées, donc on ne sait pas du tout ce qu'il y a, et des régions dont on considère elles pourraient avoir la présence de glace d'eau. Donc la NASA a sélectionné ces sites lunaires et ça va permettre un petit peu de pouvoir là encore avoir des informations supplémentaires. Vous voyez, 2025-2026, je vous ai dit, cette décennie va être véritablement fantastique. Autre lien, alors les petites brèves dans Science et Avenir, elles n'ont pas nécessairement de lien entre elles. Là, il y a un insecte, et précisément un cafard, qui peut être piloté à distance, sans fil ni batterie. C'est le dernier exploit qui a été réalisé cette fois par des Japonais. En fait, on sait déjà faire une prise de contrôle de cafards vivants à l'aide d'impulsions électriques qui sont délivrées dans leur système nerveux. Ça existe depuis une dizaine d'années. Mais c'est la première fois qu'une équipe va résoudre un petit peu le problème de l'autonomie. Pour cela, ils ont mis au point, là encore, des cellules photovoltaïques, donc en clair des panneaux solaires. Alors, des panneaux solaires minuscules, bien évidemment. Des panneaux solaires qui doivent être légers, qui doivent être flexibles, parce que du coup, on va pouvoir les faire tenir sur la carapace du cafard, en clair. Et ce cafard, du coup, comme on aura quelque part une batterie qui sera directement positionnée sur lui, on va pouvoir, là encore, piloter à distance. Ne me demandez pas à quoi ça va servir, je n'en sais absolument rien. Mais en tout cas, c'est assez révolutionnaire parce que l'intérêt, justement, c'est le côté sans fil et le côté d'avoir, là encore, une batterie inusable, entre guillemets. C'est en tout cas, comme on est sur le principe de l'énergie renouvelable, cette batterie va pouvoir se recharger continuellement grâce à ces panneaux solaires. Donc voilà, il y a des petites choses qui existent. Et enfin, dernière information avant qu'on écoute un peu de musique, moi je trouvais ça assez formidable, c'est nos téléphones. On a de plus en plus la biométrie qui nous permet de pouvoir contrôler nos téléphones. Donc il y avait l'empreinte digitale, on a la reconnaissance de visage. Eh bien, il y a une équipe qui a mis au point un système de biométrie qui est assez particulier, c'est-à-dire que ces téléphones vont pouvoir se déverrouiller grâce à l'haleine. En fait, il va falloir qu'on souffle sur une espèce de capteur et du coup, le téléphone va reconnaître votre haleine et va pouvoir s'ouvrir. Je trouve ça assez fascinant, parce que je suis en train de nous imaginer en train de souffler à la gueule de ces téléphones pour qu'ils s'ouvrent. C'est assez formidable. Et le capteur, nous dit-on, est capable de discriminer une vingtaine d'individus avec un taux de réussite de plus de 97%. Alors, je ne sais pas précisément. Je pense qu'on n'a pas la même haleine le matin, le soir. Enfin, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui m'échappe dans cette information-là. Mais bon, si c'est dans Science et Avenir, on va dire que c'est possible et que c'est vrai. On va parler des prix Nobel juste après Nina Attal, bien sûr, sur l'antenne de Graphite. À tout de suite. Jump, c'était Nina Attal sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h Biotine pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. Vous nous écoutez sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise, la Somme, en voiture, en train de préparer le déjeuner ou alors le petit déjeuner. Je rappelle que la rediffusion, c'est le mardi à 10h. Donc si vous vous levez un petit peu tard le mardi matin, vous êtes en train de petit déjeuner, tant mieux pour vous. Et vous avez bien raison d'écouter Graphite le mardi matin à 10h pour la rediffusion de Biotine. Et puis vous nous suivez bien évidemment sur le site internet graphite.net, que ce soit en direct ou en différé, avec la possibilité de récupérer bien sûr tous les podcasts des émissions depuis 2019. Il me semble d'ailleurs, je crois qu'il y a toujours les enregistrements, même avant, il me semble, c'est même antérieur. Comme je vous l'ai dit, alors on est un petit peu en retard pour l'actualité des prix Nobel. En général, j'en parle un petit peu avant, mais là, on a été un petit peu bousculé par les différentes émissions du mois d'octobre. Et parce qu'il y a un petit peu plus d'un mois, c'était le 3 octobre, nous avons appris que... Alors c'est pareil, ils ont toujours des noms compliqués, c'est pas sympa pour moi. Svante Paabo a reçu le prix Nobel de médecine pour son travail en paléogénomique. C'est une discipline récente qui va étudier l'ADN des espèces humaines disparues et qui permet un petit peu de comprendre d'où l'on vient, qui nous sommes. Et avant le travail de ce Suédois Svante Paabo, eh bien l'étude des ancêtres d'Homo sapiens se faisait à partir de découvertes paléontologiques et archéologiques. Et l'ADN présent dans ces échantillons vieux de plusieurs milliers d'années n'était pas exploitables. Ils étaient abîmés, fragmentés, contaminés par d'autres organismes, si bien qu'il était difficile de pouvoir tirer une information fiable. Et donc Svante Paabo a consacré les 30 dernières années à l'Institut Max Planck pour pouvoir développer des techniques qui vont permettre d'analyser cet ADN vraiment ancien. Et sa première prouesse concerne le séquençage d'un ADN particulier, c'est l'ADN mitochondrial, qui était issu d'un os de Néandertal, et décrypter de l'ADN si vieux, c'était techniquement possible, mais bon, il fallait pouvoir essayer d'avoir les technologies nécessaires et efficaces. L'ADN mitochondrial, c'est l'ADN qui se trouve dans les mitochondries. Alors les mitochondries, ça se trouve dans nos cellules. Si vous voulez, c'est un petit peu la batterie de nos cellules, c'est un petit peu le réservoir d'énergie. Donc on n'est pas dans un ADN qui va exprimer l'hérédité quelque part, mais en tout cas, ça permet d'avoir des informations bien évidemment sur l'espèce en question, en tout cas la cellule que l'on a récupérée. Son travail a fait la une quand même de la grande revue Nature, c'était en 2010, mais justement, on a voulu essayer d'avoir des informations concernant, cette fois j'allais dire, le vrai ADN. Alors les généticiens, s'ils m'écoutent, ils doivent hurler, le vrai ADN, ça n'existe pas. Mais je veux dire, ce qu'on appelle l'ADN génomique, qui est cette fois compris non pas dans les mitochondries, mais dans les noyaux des cellules, c'est-à-dire qu'on voulait comprendre le lien avec nos ancêtres les plus proches. Et donc Svante Paabo, il va pouvoir y parvenir et il démontre la relation entre Homo sapiens et Néandertal, ces deux espèces humaines qui se sont côtoyées et qui se sont reproduites ensemble. Les Européens possèdent entre 1 à 2% de gènes communs avec l'homme de Néandertal. Et sur le continent asiatique, il y a une autre espèce également qui s'est installée, qui est l'homme de Denisova. Et donc Svante Paabo et son équipe sont à l'origine de la découverte de cette nouvelle espèce, justement en décembre 2010, seulement quelques mois après les premières analyses sur Néandertal. Et donc les analyses paléogénétique, dont vous avez compris que c'était une nouvelle terminologie qu'on employait. Ces analyses ont aussi montré que les Asiatiques possédaient entre 2 et 6% de gènes communs avec ce fameux homme de Denisova. Si bien que la paléogénétique permet de savoir ce qui a rendu Homo sapiens unique et qui a conduit à son évolution rapide, bien sûr. C'est vraiment le travail de Svante Paabo. Il poursuit aujourd'hui encore son travail sur les gènes de Néandertal. Alors chaque année, l'Institut Karolinska de Stockholm décerne le prix Nobel de médecine et de physiologie entre 5 finalistes qui sont retenus parmi les projets de recherche qui ont été proposés. Les 5 finalistes ne sont connus que des membres du comité, donc il n'y a pas de fuite, on ne sait pas du tout. Il y a seulement 3 personnes ayant activement participé à la recherche qui sont récompensées, qui peuvent se partager le prix. Et ça a été attribué, ce prix Nobel de médecine, à Svante Paabo en paléogénomique. Alors on est bien d'accord, c'est quand même pas facile d'aborder ce sujet dans un repas de famille ou avec des potes, effectivement. Mais bon, en tout cas, c'est des sujets assez intéressants parce que là encore, ça nous permet d'avoir des informations plus fiables, plus nombreuses aussi. On a des données plus importantes, donc ça nous permet d'avoir des informations un peu plus fiables et un peu plus complètes aussi sur ces sujets-là. Et on en sait un petit peu plus sur l'évolution humaine, sur une grande échelle bien évidemment. Et Svante Paabo a été récompensé par le prix Nobel pour ce sujet-là, bien évidemment. On revient aux petites brèves de Science et Avenir. Alors, vous connaissez les ovnis. on en a très souvent parlé, les objets volants non identifiés, eh bien, il faut savoir maintenant qu'on ne va plus parler d'OVNI, c'est terminé. On va parler de PAN ou de PAN, à vrai dire, je ne sais pas comment on le prononce, P-A-N, ce seront les phénomènes aérospatiaux non identifiés. J'aime bien toujours cette idée d'avoir encore des mots beaucoup plus compliqués, c'est dans l'air du temps, bien évidemment. Donc, plus d'OVNI, mais des PAN, phénomènes aérospatiaux non identifiés. Ce changement d'appellation, en fait, il suit celui qui a été mis en place aux États-Unis, qui a été décidé par la NASA et le Pentagone. Et avant, on appelait des UFO, c'était un petit peu l'équivalent de l'OVNI, hein, c'était pour des objets volants non identifiés, et on les a remplacés par des UAP, qui sont donc ces fameux phénomènes aérospatiaux qui ne sont pas non plus identifiés. Et donc, du coup, comme la NASA a changé la terminologie, eh bien, on est obligé de le faire aussi en France. La NASA et le Pentagone ont décidé de soumettre au processus scientifique le nombre croissant de ces fameux objets non identifiés qui sont signalés dans le ciel depuis 20 ans. Il y a une vaste enquête de la NASA qui a été entamée il y a quelques semaines avec des résultats qui sont attendus dans 9 mois. Donc, dans le courant de l'année prochaine, on aura des informations concrètes sur ces fameux OVNI. Donc, on essaiera de suivre, mais on ne dira plus OVNI maintenant, on dira des PAN ou des PAN d'ailleurs. Si on arrive à avoir quelque chose de clair sur la prononciation, je veux bien. Une première mondiale, cette fois en Allemagne, c'est l'inauguration d'une liaison ferroviaire pour locomotive à hydrogène. Il y a une flotte de 14 machines qui ont été conçues par le français Alstom, qui va remplacer les motrices diesel. Il y a d'autres lignes en Allemagne qui vont passer à l'hydrogène. Il y a aussi, c'est ce qui nous a été annoncé, des lignes en France et en Italie, où on va avoir donc des trains à hydrogène. C'est une première mondiale et c'est quelque chose qui est finalement dans l'air du temps, là également, parce qu'on va pouvoir utiliser, exploiter une nouvelle énergie peut-être un peu plus fiable et en tout cas plus respectueuse, on va dire, dans ce contexte de dérèglement climatique. On avait évoqué il y a déjà longtemps dans cette émission, je crois que ça avait fait l'objet d'un prix Ig Nobel, c'est-à-dire ces fameux prix qui récompensent un petit peu des sujets scientifiques un peu particulier. On avait parlé des pivers. Et en fait, on sait désormais que les pivers, ils n'ont pas d'amortisseurs qui sont intégrés à la boîte crânienne. Pardon. Parce qu'on se pose la question, quand ils sont en train de taper fort avec leur bec sur un arbre un peu dur, ça doit quand même leur faire quelque chose au cerveau. Eh bien non. Si leur cerveau résiste au choc que subit justement les pivers lorsqu'ils cognent les arbres, c'est parce qu'il est parfaitement dimensionné selon les modèles biomécaniques construits à partir de vide qui ont été prises par caméra haute vitesse. On a quand même déployé une batterie de matériel assez conséquente pour finalement se dire qu'il n'y a pas d'amortisseur intégré à la boîte crânienne des pivers. On est très content de le savoir. Ça, on peut le dire dans une réunion de famille ou avec des potes. Ça, c'est quelque chose qu'on peut évoquer. Et si on fait une analogie avec les hommes, si nous, on se mettait à cogner et d'une façon équivalente comme les pivers, eh bien, nous, on aurait vraiment des commotions qui seraient provoquées, alors que ce n'est pas le cas, justement, pour le pivert, fort heureusement, sinon ça le rend plus tolérant, fort heureusement pour lui. Enfin, une dernière information, et là, vous allez comprendre qu'il n'y a vraiment aucun lien de cause à effet, mais c'est vraiment les petites brèves de Science et Avenir qui nous indiquent qu'entre le 1er juin et le 22 août de cette année, il y a eu 11 000 décès de plus qu'à la même période en 2019. Alors 2019, parce qu'on va enlever les deux années de Covid qui vont un petit peu fausser les résultats. C'est un rapport de l'INSEE qui indique cela. Et donc, on insiste à une surmortalité. Et nous dit-on, cette surmortalité, excusez-moi, de 11 000 décès s'expliquerait vraisemblablement, je cite, par la vague de chaleur survenue à la mi-juillet avec un premier épisode de canicule dès la mi-juin. Donc on estime à 11 000 morts pendant cette période de juin à août. Les conséquences de ces différentes vagues de chaleur de cet été en France. C'est par le biais de statistiques qui ont été faites, c'est-à-dire qu'on essaye de voir par rapport à une moyenne sur plusieurs années, et du coup on constate des différences, et là on a une différence assez importante qui se révèle être liée apparemment aux différentes vagues de chaleur. Voilà, c'était différentes petites informations, différentes petites brèves. On va continuer à parler des prix Nobel. Alors, il y a un prix Nobel pour la physique avec un Français, ça va pas être simple à expliquer. Et il y a un prix Nobel aussi en chimie que nous allons évoquer juste après Spencer sur l'antenne de Graphite. C'était Spencer avec After the Show sur l'antenne parce que j'ai juste ce micro en face qui m'a caché. J'avais le choix entre Slow et Show, c'était Show. After the Show, c'était Spencer sur l'antenne de Graphite. Tous les samedis, on parle d'actualité scientifique. En général, je fais en sorte d'avoir des sujets scientifiques, je dirais intéressants et assez simples pour moi à expliquer. Mais comme là, on est un petit peu contraint par l'idée d'aborder les prix Nobel, j'étais en train de regarder pendant qu'on écoutez Spencer, les explications qui nous permettent de comprendre ce sur quoi le français Alain Aspect a été lauréat du prix Nobel de physique cette année pour ses travaux sur l'intrication quantique. Alors là, franchement, c'est franchement pas simple. Moi, je veux bien qu'on me fasse faire plein de choses, mais alors vous expliquer l'intrication quantique, c'est pas évident. Il faut savoir qu'en fait, que ce phénomène d'intrication quantique, ça a été découvert théoriquement par Einstein et Schrödinger, c'est en 1935, et ça a conduit à un paradoxe assez célèbre qu'on appelle le paradoxe EPR. Pour Einstein, Podolsky, Rosen, ça a débouché sur une célèbre expérience qui a été réalisée en 1982, il y a donc 40 ans, par Alain Aspect, le français, et ça a démontré la réalité du phénomène d'intrication quantique qui est un petit peu à la base des travaux sur la téléportation et la cryptographie quantique. Alors téléportation, on arrive un petit peu à comprendre, cryptographie, quantique, on comprend aussi cette idée un petit peu de cryptographie, mais en tout cas c'est pas évident par le média de la radio de pouvoir essayer d'expliquer ça d'une façon vulgarisée, c'est un petit peu difficile. On retrouve ça aussi, ce phénomène-là, dans les ordinateurs quantiques également. Et en fait, je vous ai dit, Alain Aspect, ça fait 40 ans qu'il a produit cette expérience et donc on attendait depuis longtemps qu'Alain Aspect soit récompensé par le prix Nobel de physique pour ses travaux justement sur l'intrication quantique. Et c'est donc chose faite, hein, ça a été décerné le mois dernier, début octobre 2022. Il y a plus de 12 ans, Alain Aspect, il avait reçu le prix Wolf avec notamment deux autres collègues, l'Américain Clauser et l'Autrichien Zellinger, et ces trois hommes avaient fait des expériences importante qui concernait les conséquences des travaux d'un physicien qui s'appelait Bell, qui est décédé au XXe siècle, et c'était un petit peu la toute jeune discipline de l'époque de l'information quantique. La principale expérience a été menée par Alain Aspect et ses collègues en 1982, donc on est toujours il y a 40 ans quand même, à partir d'idées qu'il avait publiées en 1976, et il était inspiré justement d'un article de ce fameux Bell en 1964. En fait, ces travaux étaient un prélude à ce que l'on appelle maintenant la seconde révolution quantique. La première révolution quantique, ça nous a donné l'électronique avec les transistors et le laser. Donc là, on arrive à comprendre, ok, quelles ont été les applications de cette première révolution quantique, et ça a évidemment conduit à un bond technologique assez conséquent, bien évidemment, un bond technologique qui nous mène à notre monde d'aujourd'hui. Et les trois chercheurs qui ont reçu donc ce Nobel cette année, ils ont contribué à ouvrir un monde futur qui pourrait être transformé par les ordinateurs et par l'Internet quantique, bien évidemment. Donc, quelque part, on n'a pas encore concrètement une conception bien établie et bien claire de ce qui nous attend, mais en tout cas, ils ont vraiment leur part sur ces avancées-là. Au départ, John Bell voulait seulement trancher le débat qu'il y avait à l'époque entre Einstein et Bohr, qui concernait le rôle et la nature des probabilités en mécanique quantique. Il y a eu des grands débats à l'époque, et du coup, on voulait essayer de trancher cela, mais en tout cas, ça nous permettait un petit peu... C'est toujours intéressant quand il y a des débats, c'est-à-dire que on n'a pas véritablement tranché et acté le phénomène physique en question. Donc il y a des hypothèses, il y a des suppositions. On est clairement là dans une démarche expérimentale de recherche scientifique. C'est ça qui est intéressant. Et du coup, chacun suit un petit peu sa piste. Chacun essaye un petit peu d'apporter sa pierre dans ce jardin. Et du coup, chacun va pouvoir, dans ce domaine-là assez compliqué, profiter là aussi des avancées technologiques, des moyens que l'on dispose pour pouvoir avoir des informations beaucoup plus fiables, beaucoup plus justes, beaucoup plus conséquentes également, pour pouvoir trancher là-dedans. Voilà, je n'en dirai pas plus parce que j'ai peur de vous perdre, mais ce qu'il faut savoir, même si le domaine en question est assez compliqué objectivement, le fait que le français Alain Aspect ait obtenu ce prix Nobel de physique n'est pas une surprise pour les experts de ce domaine-là, parce que justement on s'attendait à ce qu'il puisse l'avoir, dans le sens où quand on reçoit le prix Wolf, et ce qui a été le cas pour lui il y a une douzaine d'années, on reçoit quelques années après le prix Nobel, et ça a été le cas bien sûr. Donc un Français, prix Nobel de physique, cocorico, Alain Aspect, lauréat pour ses travaux sur l'intrication quantique. Il y avait une deuxième Française également qui a eu un prix Nobel, vous le savez, le prix Nobel de littérature pour Annie Ernaux, bien sûr. On parlera du prix Nobel de chimie parce que je vais vous laisser quand même un petit peu vous reposer, hein, décanter un petit peu tout ça bien évidemment, et pour aborder le prix Nobel de chimie tout à l'heure. Il y a une information qu'on a retrouvée un petit peu dans différents médias, et avec ce titre qui est « La Lune se serait formée en quelques heures seulement ». Et ce titre, on l'a retrouvé partout, et donc du coup, là, je vous donne l'information qui a été notamment diffusée sur le site Futura Science, qui est un site vraiment génial parce qu'il aborde pas mal de sujets scientifiques et d'une façon totalement abordable, avec des articles très bien écrits, courts, compréhensibles et des illustrations assez intéressantes. Et donc Futura a voulu aussi essayer d'aborder ce sujet avec cette nouvelle étude qui propose un autre scénario pour la formation de la Lune. En fait, la Lune s'est formée suite à une collision assez titanesque entre la Terre, qui était encore en formation, et une petite planète qui avait la taille de Mars et qui s'appelait Théia. Et ce cataclysme qui s'est produit, alors c'était pas hier, hein, c'était il y a 4 milliards 500 millions d'années, ce cataclysme aurait projeté une quantité phénoménale de débris dans l'espace qui était bien sûr issu de la désintégration de Théia et des couches supérieures de la Terre bien évidemment. Et en ayant un système d'accrétion, c'est-à-dire de recomposition, d'agglomération ensemble, et bien ces fragments en orbite aurait alors peu à peu formé un nouveau corps qui serait la Lune. C'est l'hypothèse qui est la plus communément admise, hein, c'est ce que je viens de vous expliquer. Pourtant, il y a des scientifiques qui proposent désormais un autre scénario, et ça c'est assez intéressant, parce que l'idée de cette accrétion progressive, c'est-à-dire de cette réunion des différents morceaux qui se fait progressivement et ça produit la Lune, c'est ça un petit peu l'idée, cette idée, elle n'est pas encore pleinement convaincante. L'analyse des roches de la Lune montre en effet que leur composition est plutôt semblable à celle du manteau terrestre, ce qui serait donc un résultat contradictoire avec l'idée que la majorité des débris proviendrait de Théia et non pas de la Terre. Et pour tenter de résoudre cette énigme, il y a des scientifiques de l'université de Durham qui ont réalisé des simulations numériques à l'aide d'un super ordinateur, d'un super calculateur, et les résultats amènent à une alternative concernant l'origine de la Lune. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est assez nouveau. En fait, ils ont fait pas mal de simulations parce qu'ils avaient, on va dire, quand même des outils qui permettaient de le faire. Et ils ont essayé de faire varier l'angle et la vitesse de la collision. Ils ont essayé de varier les masses de la Terre et de cette fameuse Théia. Et il apparaît que l'impact aurait pu produire un corps directement de la masse de la Lune, directement sur l'orbite terrestre. Et les paramètres de la collision restent en effet aujourd'hui très débattus. Les simulations qui ont été réalisées par ce super ordinateur, ces simulations montrent que certaines variations de ces paramètres peuvent déboucher sur des résultats surprenants. Et plus intéressant encore, les résultats de cette étude qui a été publiée il y a quelques semaines, début octobre il me semble, dans la revue Astrophysical Journal Letters, eh bien, ces résultats permettent d'expliquer pourquoi les couches externes de la Lune sont riches en matériel d'origine terrestre et il y a des échantillons qui ont été récupérés par les différentes missions Apollo. C'est pour ça qu'on le sait. Et tout ça, en fait, donne une hypothèse qui aboutit à un scénario assez nouveau. Ce modèle suggère, ce scénario suggère donc que la Lune, elle serait composée de 60% d'éléments qui viendraient de la Terre, contre seulement 30% pour la théorie classique du premier scénario que j'avais évoqué. Donc, si la Lune, ou au moins une grande part, s'est formée très rapidement après l'impact, eh bien cela signifie qu'une quantité moins importante de roches était sous l'état fondu durant sa formation, moins en tout cas que la quantité impliquée dans les théories de départ, et cela aurait un impact assez important sur la vitesse de refroidissement de la Lune, sur sa composition, mais également sa structure, parce que ce nouveau scénario, il suppose que seule une fraction de cette croûte était fondue, l'intérieur étant plutôt froid et solide, et cette faible quantité de roche un peu en fusion, ça permettrait d'expliquer la composition de la fine croûte lunaire par le fait que le mélange serait très limité, à l'inverse d'une lune qui serait entièrement composée de roche fondue si on prend la première théorie. Et donc du coup, on est sur un scénario qui propose que la lune, elle s'est formée beaucoup plus rapidement, en quelques heures. Et ça perturbe un peu cette nouvelle information parce qu'on n'était pas du tout au départ sur cette piste-là. Alors bien évidemment, on est sur des suppositions, sur des hypothèses, mais c'est assez fondamental parce que on serait sur une conception de la Lune qui serait en clair. Il y a Théia qui percute la Terre et donc il y a un morceau de Terre qui s'enlève et ça donne la Lune. Si je caricature, c'est un peu ça l'idée. Alors qu'au départ, on se disait que les deux, ce sont une collision entre les deux. Il y a plein de petits morceaux qui volent un peu dans l'espace et puis hop, ça se rejoint et ça donne la Lune. Il y a deux pistes totalement différentes. Si la Lune est quelque part un bloc de la Terre, effectivement, ça donne un nouveau scénario assez intéressant et qui va ouvrir des nouvelles possibilités de réflexion qui concernent la composition, la structure de la Lune. On sait très bien que sur la Lune, là, enfin, on est dans cette décennie où on va avoir des informations supplémentaires sur la Lune. Si du coup, ce scénario va être corroboré par les informations qu'on va avoir. Effectivement, ça peut être assez intéressant sur cette Lune qui se serait formée en quelques heures. On n'était pas du tout sur ce scénario-là au départ. On écoute The Tales sur l'antenne de Graphite et puis on va parler du prix Nobel de chimie avec une technologie astucieuse, surtout utile pour la personne qui a été récompensée par ce prix Nobel de chimie. The Tales sur l'antenne de Graphite, tout de suite.
Through the halls, there's a way through the trap, but we can never
The Tale avec Clap Clap sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h. Beauty, l'émission d'actualité. Ben non, il redémarre. Ben qu'est-ce qui me fait le tel? Eh ben alors, c'est peut-être moi qui n'ai pas appuyé sur le bon bouton. Parce que voilà, donc The Tale, Clap Clap sur l'antenne de Graphite. Et je disais que vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h, la rediffusion tous les mardis entre 10h et 11h. Biotine, l'émission d'actualité scientifique, on fait une émission un peu spéciale, entre guillemets, prix Nobel, parce que c'était l'attribution des prix Nobel. Et on va parler du prix Nobel de chimie. Alors chimie, c'est pas nécessairement uniquement observer la matière. Faire de la chimie, c'est aussi créer, c'est de donner naissance à des nouveaux matériaux. Et pour cela, les chercheurs ont, au fil des années, inventé des outils de plus en plus sophistiqués, des outils qui leur ont permis de fabriquer des molécules vraiment étonnantes, mais pas sans peine, hein, parce que ces processus, c'est assez long, c'est assez coûteux également. Et c'est ce que le prix Nobel de chimie 2022 a de très spécial, parce qu'il récompense trois chercheurs qui ont su sortir des sentiers battus pour trouver sur la route des bâtisseurs de matière des réponses à la fois plus simples, plus efficaces que les autres pour fabriquer de nouvelles molécules utile. Donc, ces trois chercheurs sont Caroline Bertozzi de l'université de Stanford aux États-Unis, Morten Meldal de l'université de Copenhague au Danemark et Barry Sharpless du Scripps Research aux États-Unis. Ils sont aujourd'hui mis à l'honneur pour avoir mis sur les rails ce qu'on appelle la chimie clique ou la chimie bio-orthogonale. Alors, pour comprendre, il faut d'abord savoir que les chimistes envient depuis longtemps les solutions que la nature a trouvées pour essayer de créer du lien entre les atomes de carbone. Pour encourager ces atomes à se rapprocher, eh bien les chercheurs, eux, n'avaient jamais trouvé autre chose que ce qu'on appelle l'activation artificielle. Une activation qui était à l'origine de nombreuses réactions secondaires indésirables et donc des pertes de matière, c'est pas génial. En 2001, Barry Sharpless, il a déjà reçu à l'époque, en 2001, un premier prix Nobel de chimie. Et lui, il a eu une idée, il fallait tout simplement essayer d'arrêter de forcer les atomes de carbone à réagir les uns avec les autres et essayer plutôt d'assembler des petites unités de molécules entre elles. Et il venait de poser en fait les principes de ce qu'on appelle la chimie clique. Et il y a eu donc ça, le point de départ, c'est Barry Sharpless. La contribution de Morten Meldal pourrait être qualifiée de plus hasardeuse, alors qu'il cherchait à faire réagir une expérience assez particulière. Eh bien, il a créé une structure en forme d'anneau. Il ne s'attendait pas à ça. Et du coup, il s'est dit, tiens, ça peut être également d'avoir ce nouveau produit qui a été créé un peu par hasard. Ce produit est un peu plus stable de ce qu'il cherchait au départ. Et ce produit qu'on appelle le triazole, et c'est une structure un peu en forme d'anneau, c'est assez intéressant car les chimistes en ont besoin pour fabriquer des produits pharmaceutiques, des colorants, des produits chimiques, agricoles également. Jusque-là, ils avaient eu toutes les peines du monde à les produire de matière efficace. Eh bien, c'est très exactement ce que Morten Meldal et Barry Sharpless, en parallèle de son côté, venaient d'obtenir. Et enfin, celle que les chimistes appellent ce qu'on appelle la cycloaddition, c'est une réaction idéale de cette fameuse chimie clique, c'est-à-dire qu'on veut lier des molécules différentes entre elles, ce qui n'est pas évident. Il restait justement de pouvoir essayer d'avoir... on crée des matériaux et on souhaite les réunir entre eux. Donc il faut une espèce de colle. Alors, quand je dirais colle face à un chimiste, il va encore hurler, mais c'est pour essayer de comprendre un petit peu quel était le sujet de cette recherche. On arrive justement à avoir des molécules qui vont pouvoir être... qui vont pouvoir, comment dire... mettre en place une espèce d'unité un peu clipsable, c'est-à-dire qu'on va avoir des molécules qu'on va pouvoir clipser entre elles grâce à un élément qui va faire le lien entre les deux, quelque part. C'est ça, entre guillemets. Vous avez deux Lego avec une forme spécifique et vous avez le Lego qui va pouvoir réunir les deux en même temps, si je schématise vraiment grossièrement, mais c'est juste pour avoir une idée. Et justement, c'est Caroline Bertozzi qui, elle, va travailler sur cette idée-là. Elle avait eu beaucoup de peine à étudier le fonctionnement d'un glycane qui est un glucide, donc un sucre assez complexe. Et justement, elle a eu quelques pistes assez intéressantes qui lui ont permis justement d'avoir des solutions assez efficaces, on va dire. Et les trois pistes différentes. Ce sont donc, enfin différentes, chacune dans leur couloir, on va dire, se sont réunies et les travaux ont permis justement de pouvoir aboutir à des matériaux vraiment efficaces, vraiment utiles, et ça a permis par la suite de pouvoir apprendre des informations, notamment sur des pathologies ou autres. C'est-à-dire que les débouchés sont vraiment importants et cette fameuse chimie clic, qui est à la fois astucieuse et surtout utile, qui date donc du début du XXIe siècle, a été récompensée pour ces trois chercheurs par le prix Nobel de chimie 2022, une solution efficace pour pouvoir fabriquer des nouvelles molécules utiles. Bien évidemment, c'est quelque chose d'assez révolutionnaire parce que si on arrive à avoir une technologie, une méthode qui va permettre de créer des molécules nouvelles, importantes, efficaces, et du coup, on va pouvoir arriver à avoir des choses vraiment qu'on va pouvoir faire à grande échelle, on va dire. Ça va être assez intéressant, notamment d'un point de vue pharmacologie, parce que du coup, on va peut-être pouvoir créer des médicaments avec des principes actifs nouveaux, mais beaucoup plus efficaces face à certaines maladies. Donc, il y a vraiment des pistes. Ce sont des suppositions aujourd'hui, mais on ouvre plein de portes qu'il va falloir explorer. Enfin, on les a déjà ouvertes, en clair, et on récompense aujourd'hui par ce prix Nobel de chimie les chercheurs qui ont ouvert ces portes quelque part et qui sont en train de voir un petit peu ce qui se passe derrière. Voilà, c'était les trois Nobel, prix Nobel qui concernent les domaines scientifiques. Hein, c'est pas toujours évident, j'en suis désolé de parler de ces prix Nobel parce que les thématiques sont pas nécessairement simples, elles sont pas faciles, on va dire, à évoquer sans schéma, sans vidéo ni rien, donc uniquement par le média radio, mais voilà, ça me paraît important tous les ans de faire un petit focus dans cette émission sur les prix Nobel qui ont été récompensés. On va parler du lancement d'Artemis, alors qui est prévu court en novembre, hein, dans quelques jours apparemment, juste après Whisper Sound sur l'antenne de Graphite. À tout de suite.
Discussing for with glances of disdain. Don't you see I'm a saint? I should be praised while I parade past my own remains. I strive for perfection. They should hang on every word I speak. Lick the dirt off my lips and kiss my cheeks. Cheer on the evolution that I seek. I am ripe for perfection. Gradually cut out all the pieces I don't like. And I enslave myself to a maniacal mind. No, I'm a bit a better person. A superficial version. No, I'm a bit a better person. A superficial version. No, official version.
Whispering Sounds sur l'antenne de Graphite avec Dead N. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique depuis le début du mois de septembre, il me semble. On parle du lancement d'Artemis. Hein. Il y avait même des médias, les chaînes d'information françaises qui voulaient faire des directs et ça a toujours été reporté. Alors, il y a eu en plus l'ouragan Ian qui est passé au-dessus de la Floride avec des dégâts considérables dans de nombreuses régions de cet État. Mais cet ouragan a cependant évité le centre spatial Kennedy. Alors, la base de lancement de la NASA a été touchée par un épisode météorologique important et avec des vents violents, mais il n'y a aucun dommage significatif qui a été recensé sur les installations. Et donc, tout a été abrité dans le bâtiment d'assemblage, notamment le véhicule Orion. Tout ça est en maintenance et tout ça est préparé pour une prochaine tentative de lancement prévue donc en novembre. Et à l'intérieur d'une fenêtre de tir qui s'ouvre entre le 12 et le 27. Et donc, la NASA a dévoiler une nouvelle date. Apparemment, ça serait le 14 novembre à 6h07 du matin, heure de Paris. La fenêtre sera ouverte 69 minutes et en cas de nouveau report, il y a d'autres opportunités le 16 ou le 19 novembre. Donc voilà, on verra d'ici là si le 14 novembre est respecté. Alors cette préparation au lancement devrait durer plusieurs semaines avant que le lanceur ne soit transféré sur son pad de tir. Il y a de nombreuses opérations de maintenance qui sont donc prévues, dont une inspection minutieuse des blocs de liège qui servent d'isolant. Et ces blocs, c'est au niveau de la protection thermique du lanceur et ainsi qu'une revue du bouclier thermique du véhicule Orion. Les équipes au sol doivent procéder à d'incontournables vérifications et un important travail à conduire sur la multitude des batteries à bord du lanceur et à bord d'Orion. Certaines seront remplacées, d'autres seront rechargées, dont les fameuses batteries du système de destruction en vol du lanceur. Donc Artemis 1 va embarquer 10 CubeSats qui seront des petits satellites qui seront livrés en orbite et certains de ces petits satellites verront également leurs batteries changer ou replacer. Donc en fait, il faut remettre un petit peu tout en ordre. À l'intérieur du véhicule Orion, il y a de nombreuses batteries qui sont également installées. Donc elles servent à faire fonctionner les expériences à bord pour essayer de tester le fait que le véhicule soit habitable, essayer de faire fonctionner les différents paramètres, différents capteurs, différents outils, différentes machines et également mettre en place des expériences sur les rayonnements spatiaux par exemple. Voilà, donc pour l'instant, l'information que l'on a, c'est que la prochaine date du lancement d'Artemis 1 par la NASA serait le 14 novembre. Alors levez-vous tôt, 6h07 du matin, heure de Paris bien sûr. Donc on suivra ça pour les prochaines émissions de Biotine, notamment la semaine prochaine. Commencera le 12, bien on en saura un petit peu plus pour savoir si le 14 est maintenu ou pas, bien évidemment. C'était Biotine, l'émission d'actualité scientifique. J'étais très ravi de vous avoir animer cette émission un peu compliquée, j'en suis désolé. On essaiera de faire quelque chose d'un petit peu plus distrayant et un peu plus simple la semaine prochaine, bien sûr, à partir de 12h sur l'antenne de Graphite 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet, bien évidemment. D'ici là, vous restez fidèles, bien sûr, à l'ensemble des émissions de Graphite. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, au revoir.